De sécurité dans un musée d'art contemporain raconte avec humour et intelligence les revirements de situation incroyables qui auront mené à ce qu'une œuvre bouleverse sa vie à jamais. Nipple Jesus, en formule 5 à 7. Réservez vos billets sur labordé.qc.ca.
L'émission Arcade Québec est une présentation du nouveau campus informatique 42 Québec qui offre une formation pas comme les autres dans un environnement stimulant, connecté sur l'industrie. Es-tu né pour coder? Viens le découvrir en jouant sur la plateforme d'admission au 42québec.com. Qui sait où ça pourrait te mener?
Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 433, enregistré le 24 avril 2024. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal le Guillaume Duplain. Salut Guillaume.
Salut Stéphane.
Et Jeff Dion, le Père Noël, d'Arcade Québec. Salut Jeff.
Salut Stéphane.
Les gars, cette semaine, on a un beau panel pour vous, un panel d'individus louches, mais qu'on adore. Je commence, parce que quand on parle de louches, il est présent. Stéphane Gagnon de Player qui est avec nous. Salut Steph.
Salut Steph, salut l'équipe, Jeff, Guillaume, Vincent. C'est un plaisir d'être là.
Et tu viens de voler la mèche justement, Vincent Rioux, qui est avec nous, alias Varo BD, que vous le connaissez peut-être sous ce nom. Salut Vincent.
Salut les gars, c'est vraiment trippant, une belle brochette de point zéro.
Yes, exactement, tout à fait. Hey, Vincent, avant de débuter les choses, j'aimerais que tu puisses nous jaser d'un prix très, très prestigieux que tu as gagné, pas vendredi passé, mais l'autre d'avant, donc voilà deux semaines. Parle-nous de ça un petit peu.
Oui, ben c'est ça, c'est pas la dernière fin de semaine, c'est juste l'autre d'avant, c'était le Salon du Livre de Québec. Et puis, en même temps que le Salon du Livre se déroule, le Festival de bande dessinée de Québec, qui est le plus gros événement. Il fêtait, je pense, leur 30e année. En tout cas, ça fait longtemps que ça roule. Et à chaque année, ils remettent les prix BDS Causa pour meilleur album de bande dessinée publié au Québec, etc. Moi, j'ai eu la chance, avec l'agent double, de remporter meilleur album québécois publié dans le monde, dans le fond, là, un peu partout dans le monde. Ça fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment content parce qu'on a eu une super grosse année avec l'agent double. On a fait une tournée de malade. On est allé en Suisse, en France, en Belgique, même à Londres. Ça fait que ça a été malade. Puis la réception a été fantastique partout où on allait. On a eu zéro mauvaise critique. Puis on a eu énormément de retours. Ça fait que c'est un sujet assez lourd aussi. Le personnage principal, il vit avec la schizophrénie. Ça fait que c'est le genre de truc que tu sais pas trop quand tu sors ça, si tu vas te faire démolir ou ramasser ou encenser. Ça fait que je suis vraiment content. Ça finit, c'est la cerise sur le gâteau de gagner ce BDS Causa-là du Salon du Livre de Québec. C'est merveilleux.
Félicitations d'ailleurs en passant. Puis on invite tout le monde qui connaissent pas justement cette BD-là, de l'acheter. Est-ce que c'est l'œuvre duquel t'es le plus fier dans tes 25 ans de BDiste?
Ah oui, vraiment, vraiment. Le seul truc, j'en parlais encore cet après-midi, j'étais en atelier, je passe la semaine en atelier scolaire avec un festival proche de chez moi qui s'appelle La Crue des mots. Et la seule truc que je suis un peu amer de cette histoire-là, c'est que ça, moi, j'ai écrit l'histoire il y a 10 ans. J'avais aimé ça le sortir il y a 7 ans, parce que ça me prend à peu près 2 ans faire un livre. Mais les éditeurs avec qui je travaillais à l'époque, ils voulaient absolument rien savoir. Ils disaient, ça va pas se vendre, c'est pas un sujet qui est intéressant. Un héros en bande dessinée, il peut pas être un schizophrène. Ça fait que ça a pris la pandémie, puis le film de Joker, comme je t'ai déjà parlé, qui a ouvert les portes juste avant la pandémie, ça a pris bien des affaires pour les convaincre, puis leur vendre le projet. Puis une fois que le projet a été vendu, ben c'est l'album dont je suis le plus fier, mais c'est l'album aussi qui a fait le plus parler, l'album qui s'est le mieux vendu, et on gagne des prix après ça pour finir l'année. Ça fait que tu dis, certain, mais maudit. La prochaine fois, vous allez peut-être plus m'écouter quand je vais essayer de vous pitcher un nouveau projet.
Puis j'ai aimé aussi que, tu sais, vraiment, la première page, quand tu ouvres le BD, c'est justement un peu une réflexion par rapport à ça, tu sais. T'as des bulles, justement, de gens qui... ah, ça se vendra pas, ce sera c'est pas une histoire, tu sais, qu'on... Tu sais, t'as vraiment repris, vous avez vraiment repris ce boulot.
Les pages de garde, oui, les pages de garde, c'est une discussion, c'est le personnage qui marche tout seul dans la rue. J'ai utilisé les pages de garde pour faire un peu de mise en abîme, là, et c'est vraiment le personnage qui pense à haute voix et qui a un peu la réflexion que moi, j'ai eue avec mes éditeurs. Faut pas parler de ça, faut pas que ça paraisse, c'est pas quelque chose qu'il faut parler en parlant de la santé mentale puis de la schizophrénie. Il faut pas que personne s'en rende compte, puis tu sais, c'est tout des sujets justement qu'il faut en parler, sinon il y aura aucun avancement sur cette maudite planète.
Tout à fait, tout à fait. Donc ça s'appelle L'Agent Double. Si vous aimez moindrement les BD, allez vous procurer votre propre copie. C'est en vente partout au Québec, partout dans le monde d'ailleurs, donc gênez-vous pas. Yes, merci Vincent d'être là avec nous. Les gars, on commence le show, mais avant, je vous parle évidemment qu'on est sur Patreon, donc n'hésitez pas à nous donner une coupe de piastres si le cœur vous en dit. Les Chevaliers discutent le podcast de la Seigneurie, donc mon petit projet avec mes étudiantes. On a sorti encore un épisode cette semaine, on va en sortir un autre la semaine prochaine. Allez sur Spotify, faites une recherche avec Les Chevaliers discutent. Allez donner de l'amour à mes étudiantes. La session achève, là. Donc on va prendre une pause évidemment pour l'été, mais... ils sont vraiment bonnes. Ils sont vraiment, vraiment meilleurs qu'au début. Vous allez voir une super évolution. Je suis très, très fier de mes petites filles. Donc, ça va vraiment être cool. Sinon, Stéphane et moi, évidemment, main dans la main. Pour le meilleur et pour le pire. On est chez Radio. On a la chance de passer à Radio Talbot sur Patreon les jeudis à 20h. Si vous avez la chance d'aller écouter le dernier show, je pense que c'était un des...
Il y avait le meilleur, M. Goulet, et le pire, M. Gagnon.
Oh, c'était vraiment drôle, pour vrai. On a eu un méchant bon show. En tout cas, j'ai rarement ri comme ça.
C'était fantastique. Moi, je l'ai écouté. Ouais. Puis, je pensais, le lendemain, j'avais un podcast avec Steph Brad, puis j'ai dit, il restera plus de jus, il va être brûlé après cette prestance-là.
Oh, c'était malade. C'était malade mental, pour vrai. Sinon, je vous parle de deux petits événements. Un qui s'en vient le 1er juin prochain, c'est le prochain show de l'Orchestre Select Start, le show RPG. Vous allez sur le site du Palais Montcalm, vous achetez vos billets, on se voit là-bas. Mais sinon, je vous parle de quelque chose de vraiment plus près. Okay? En fin de semaine, dimanche, le 28 avril prochain, de 14h à 16h, ici à Québec, à la station de CKRL, c'est au 405 3e Avenue à Québec, les Geeks Contre-Attaque vont être live devant public sur place. Je vais être là, évidemment, avec eux. C'est dans le cadre du Radioton de CKRL qui est l'événement de financement de la station. Vous venez sur place... On a du fun, puis vous allez voir un peu la dynamique, justement, là. Donc, on le fait dans la grande salle, donc pas dans le studio régulier, mais le studio est vraiment déplacé dans la grande salle. Il y a des chaises, vous venez vous asseoir, on a du plaisir, on jase tout le monde ensemble. Donc, notez ça, ce sera pas le samedi comme d'habitude, le show, mais ça va être le dimanche à CKRL 89.1, 28 avril, de 14 à 16 heures. Venez nous voir, ça va être super le fun. Puis après ça, ben, qui dit qu'on n'ira pas peut-être prendre une bière tout le monde ensemble, sait-on jamais. Donc ça va être super le fun. Donc dimanche le 28 avril, j'ai vraiment hâte là, à cet événement-là. Puis d'ailleurs en passant, si le cœur vous en dit, vous pouvez donner aussi à CKRL pour ce qui est du Radioton, pour qu'on continue évidemment à avoir cette station ici dans nos oreilles à Québec. Les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Donc, à quoi on a joué cette semaine? Outre, évidemment, le sujet de la semaine qu'on va se garder pour plus tard, Stéphane Gagnon, à quoi as-tu joué cette semaine?
Ben, malheureusement, étant donné que... j'avais le test à faire et je devais en parler sur quatre shows. Je travaille aussi en 40 heures semaine, donc j'ai consacré mes heures libres là-dessus. Mais je peux mentionner qu'avant d'embarquer dans Endeavor la semaine passée, j'avais redécollé une game de Cyberpunk pour faire le DLC de Phantom Liberty.
OK.
Et je m'étais dit, je vais me concentrer sur les quêtes principales pour me rendre à Phantom Liberty, faire le DLC de Phantom Liberty, puis voir qu'est-ce que ça apporte, puis laisser ça là. Mais Cyberpunk, c'est un jeu qui est tellement, mais tellement complet, qui est tellement immersif. T'embarques dedans, puis tu te laisses porter, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es en train de tout faire des quêtes secondaires, tu es en train d'upgrader ton personnage. Tu veux réentendre des conversations, mais tu vas prendre des décisions différentes qui vont t'amener ailleurs aussi, puis tu vas avoir des événements que tu n'auras pas vus dans ta première run. Le jeu est rendu beau, mais beau comme pas possible. Puis tu sais, aujourd'hui, dans l'état du jeu, je pense que je peux dire que Cyberpunk fait probablement partie de mon top 5 des meilleurs jeux au monde que j'ai joué. Là.
Ah, de tous les temps? Ah oui, à ce point-là?
De tous les temps. Ah oui, c'est complètement fou. Les dialogues... Tu sais, ça arrive jamais dans Cyberpunk que tu vas à une place que les dialogues vont être banals ou ils vont t'emmerder puis tu vas avoir le goût d'épasser rapidement. La plupart du temps, c'est intéressant. Il y a peu de jeux qui peuvent nous offrir un niveau de réalisme autant... Tu sais que t'es dans le in-game puis t'arrives dans des conversations avec les gens puis les visages des personnes sont tellement rendus beaux. T'as tout le temps l'impression que t'es dans un film ou dans une série. Puis quand tu rentres dans le DLC de Phantom Liberty, là, les yeux te saignent tellement que c'est beau. C'est malade mental quand même. T'arrives là-dedans là, puis les personnages sont... Je te dis, je suis retombé en amour. J'ai juste hâte là, de terminer. Tu sais, je le savoure quand même, là, Stellar Blade, mais j'ai hâte de le terminer pour terminer ma game de Cyberpunk.
Ouais, il y a vraiment une petite différence entre le DLC puis le jeu principal en tant que graphiste.
Ouais. Ah ouais. Oui, parce que le DLC est exclusif à la série X, si je ne me trompe pas, et à la PlayStation 5. Okay, tu vois qu'il y a une couche au-dessus. Le reste du jeu est très, très, très beau. Tu sais, puis il y a même des gens qui remarqueront peut-être pas. Mais c'est aussi dans le souci du détail. Quand tu arrives dans ce quartier-là, tu vois qu'il y a un souci du détail qu'ils ont réussi à apporter qu'il y a peut-être moins dans d'autres quartiers de la ville.
Puis t'as une densité aussi.
Ouais.
Tout est plus dense. Plus de personnages, plus de voitures, plus de bâtisses et...
Ouais, les détails dans tout, là, tu sais, un peu comme on voyait, mettons, dans The Last of Us. Là, tu as du détail au millimètre près. Là. Si vous avez jamais fait de Cyberpunk, puis tu sais, vous êtes amateur de shooter, vous êtes amateur de bonnes histoires, le côté un peu science-fiction, vous aimez ça. Vous aimez les polars, là, les films un peu de Quentin Tarantino. C'est sûr que vous pouvez pas ne pas. Embarqué dans Cyberpunk. Cyberpunk, le plus dur, c'est de faire le premier 2-3 heures. Parce que ça vient dérouter un peu, on est mélangé un peu, puis on a peur, on a dit hey, ça va être trop gros, je comprends pas trop ce qui se passe. Tu sais, ils ont comme quand même allégé un peu les talents pour que ça s'apprenne bien. Mais un coup, tu y vas tranquillement, t'embarques dans le bateau, puis au bout de 3-4 heures, à un moment donné, là, t'es pas mêlé, tu continues, puis t'avances, là, puis c'est. Écoute, tu te promènes, maintenant ton téléphone sonne, il y a quelqu'un qui t'appelle, il te donne un contrat, tu peux le rappeler, t'envoies des textos.
Good, ouais, good, good. D'abord. Donc, on va parler de Stellar Blade tantôt, évidemment. Donc, Vincent, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine, outre Stellar Blade, évidemment?
Moi, j'ai joué un peu aussi à Ronin. J'étais en train de finir Rise of the Ronin avant de starter sur Stellar Blade. J'ai une grosse semaine, là. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, mais j'étais quasiment à la fin, puis je l'ai avancé un petit peu. Rise of the Ronin, je suis assez mitigé. C'est le genre de jeu que normalement j'aurais capoté ben raide. C'est quasiment un mélange entre GTA puis Assassin's Creed, là. Sauf que c'est un jeu qui est trop long. Ils ont essayé de mettre trop d'affaires là-dedans. Ce jeu-là aurait duré 40 heures, puis ça aurait été un de mes meilleurs jeux de l'année. Mais là, il y a tellement de personnages puis d'affaires à faire, puis que ça finit plus. À un moment donné, t'es tanné, puis t'as hâte que ça finisse, puis ça finit pas, puis il y a une nouvelle map qui s'ouvre, puis tu te dis, t'as à boire un autre map, tout ce que j'ai fait, ça recommence encore. Fait que c'est un jeu qui est magnifique, mais on passe de Nioh, que moi j'adorais en tant que tripeux de Dark Souls et de Soul-like, à ce jeu-là. Les mécaniques de combat de Nioh, il était parfait, il était super vite puis timé comme d'un Dark Souls. Dans ce jeu-là, c'est lent. On dirait que ça a tout été ralenti. Peut-être pour que Monsieur Tout-le-Monde aime ça, puis aller chercher un plus grand public. Tu sais, ça, Elden Ring, là, je sais pas si vous en pensez, les gars, là, mais je pense que ça va avoir un petit côté néfaste, dans les Dark Souls puis les Soul-like, dans le sens que tout le monde va se dire, ah, la recette magique, c'est peut-être de rendre les jeux plus faciles, fait que plus accessibles au grand public puis d'en vendre plus.
Ah, parce qu'il était facile, Elden Ring, pour toi.
Oui, oui, beaucoup. Ben, dans les Souls, c'est le plus facile. Là,
ah oui, je sais pas. Non, ok.
Ouais,
Tu vois, moi, je suis pas d'accord avec toi au sens où, pour moi, le fait de les démocratiser, ça a amené, ben, moi, j'ai pu y jouer, tu comprends? Parce que, tu sais, s'il avait été difficile. Regarde, moi, te le dire, là, mon expérience. J'en ai pas parlé à personne parce que c'est vraiment, vraiment très. Ça m'avantage pas, là. Mais quand j'ai tombé dans, justement, Elden Ring, je me suis dit, hey, wow, c'est vrai que ces jeux-là, ça doit être le fun, tu sais. Fait que j'ai tout acheté. J'ai acheté le coffret des trois premiers jeux de voyons, comment ça s'appelle, de Dark Souls, justement, le 1, le 2, le 3. Puis j'ai même acheté le remake de Dark Souls sur PS5. Donc j'ai tout acheté d'une shot. Puis je me suis dit, bon, là, je suis bon maintenant, tu sais, j'ai joué avec Stéphane, je suis pas pire, fait que je m'agaroche là-dedans. C'est ça.
Ça a duré 5 minutes, ça a
tout commencé, dans le fond, c'est ça que tu veux me dire?
J'ai commencé Dark Souls 3, puis Demon's Souls, je les ai commencés.
OK.
C'est ça. Dans Demon's Souls, là, j'étais sur au début de tout, là, tu te promènes sur un comme sur un mur de château, là, puis t'as un dragon qui arrive, là. Je sais pas quoi faire. Je me suis fait tuer 8500 fois, puis là, j'étais comme, voyons, c'est moi capable de faire de quoi, là, éventuellement? Non. Tu sais, il me punit tellement qu'à un moment donné, j'ai dit là, c'est assez.
Ouais, tu fait peux pas le tuer, le dragon, au début.
Non, c'est ça, faut que tu t'en ailles.
En tout cas, regarde, je sais pas, là, j'ai pas compris. Fait que, tu sais, en gros, j'ai compris, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est vrai. T'sais, pour moi, c'est positif, encore une fois, parce que ça me donne l'accès à ces jeux-là. Mais quand tu veux souffrir, quand t'es vraiment, j'imagine. Bon,
mais c'est pas nécessairement ça, c'est que FromSoft a l'expérience pour arriver avec, après des années, un jeu super équilibré qui peut plaire à tout le monde. Les compagnies qui essaient de copier FromSoft ont pas cette expérience-là, puis s'ils rendent les jeux plus lents, plus faciles, plus mous, ça fait que tu meurs jamais. À un moment donné, quand tu joues à un Souls, puis que tu passes toutes les boss first shot, c'est pas normal, là.
Mais je vais revenir là-dessus, Vincent, puis j'interromps, mm-hmm. là, je m'excuse. Là,
vas-y.
C'est parce qu'à un moment donné, là, les joueurs sont de meilleurs. Tu sais, vous faites tout le temps les mêmes genres de jeux, vous faites tout le temps le même jeu. Tu sais, c'est reproché énormément à Ubisoft, là.
C'est vrai. Vous
faites tout le temps le même genre de jeu.
C'est vrai.
Là, on sort un Rise of the Ronin. Tout le monde font la maudite comparaison avec Ghost of Tsushima. Ouais, mais Ghost of Tsushima. Ah, oh, mais Ghost of Tsushima. Ou la comparaison parce que. Vu que c'est la même gang que Nioh. Ouais, mais il n'est pas comme Nioh. Puis le combat n'est pas comme Nioh. Ouais, mais c'est ça. Mais le jeu est à part entière, ce jeu-là, avec ce gameplay-là. Ça fait que ça, à un moment donné, il faut le prendre comme il vient. Tu sais, comme présentement, le jeu qu'on joue, il n'est pas comme Bayonetta, il n'est pas comme Sekiro, puis il n'est pas comme un autre. Il a son gameplay.
Je suis complètement d'accord avec toi quand le jeu. Est bon et que ça amène quelque chose de plus. Mais Rise of the Ronin, pour moi, c'est des petits bouts d'Assassin's Creed, des petits bouts de GTA, puis c'est mélangé, puis ils vont chercher des mécaniques qu'on connaît par cœur, mais ils amènent rien de nouveau. Mm-hmm. Et c'est juste à essayer de baisser un petit peu le degré de difficulté pour qu'on avance facilement là-dedans. Mais à un moment donné, pendant 80 heures, ça devient trop long, trop... Et t'as pas assez de challenge pour jouer 80 heures à ce jeu-là.
Tout ce que tout le monde me dit, c'est justement ça. C'est que c'est un bon jeu, mais il est trop long. Tout le monde dit ça. Mm-hmm. Mais c'est pas un mauvais jeu. Fait que,
non.
Si tu penses passer 100 heures sur un jeu, puis que toi, ça te dérange pas, tu sais, de. Y es-tu répétitif un petit peu ou bien c'est. Sens-tu une répétition,
exagéré? Pas tant que ça, non. Moins que Final Fantasy, genre, mais. Assez pour. Avoir de challenge, puis être trop fort, puis avancer, puis avoir des setups. Juste pour vous dire, là, si tu utilises le genre de lance-flamme qu'il y a dans ce jeu-là, là, t'arrives au boss, tu ouvres ton lance-flamme, tu tiens le bouton dans le fond, puis quand tu le lâches, le boss, il est mort ou il reste 1 mm de vie, là, t'as même pas besoin de te battre. Il y a des mécaniques de jeu qui scrapent les combats carrément, là, tellement que c'est facile.
Ah, je comprends. Mm. C'est ça, ça brise un jeu pour
vrai. Un peu réaliste, pareil, hein, parce que je pense que n'importe quelle personne qu'on va y ouvrir un lance-flamme bien comme il faut à côté.
Mais en même temps, ça s'adresse à un public. Là. Ils l'ont peut-être juste mal marketé en disant c'est un soul-like, mais c'est plus un soul-light. Un peu comme on a les roguelike puis les roguelike.
Mais il n'y a pas été marketé un soul-like, par exemple.
Non.
Non, pas c'est tant. Ça. Mais moi, c'est, le marketing de ce jeu-là est un peu déficient pour vrai, parce que moi, tu sais, je n'ai pas tant vu.
C'était un combat toute personne RPG.
Ouais, c'est ça, mais c'était pas. Moi, je pensais que c'était plus comme un Assassin's Creed. Tu sais, vraiment.
C'est pas loin de ça. C'est vraiment pas loin de ça.
OK, OK, OK. Good, good, good. T'as joué à d'autres choses à part de ça? J'imagine non. Que non. Non, good. Guillaume, de ton côté, t'as eu enfin la chance de terminer la série Fallout. Oui. Le dernier épisode, il faut se rappeler que la semaine passée, tu étais rendu au dernier.
Oui, j'étais rendu au dernier.
Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, sans spoiler, évidemment?
Oui, mais écoute, j'étais chanceux parce que là, j'étais vraiment rendu à menacer ma blonde. de rire d'elle en onde. Si j'étais pas capable d'écouter, parce que justement, là, j'étais rendu à l'épisode 7 de 8 mercredi dernier, et lundi, j'étais encore à l'épisode 7 de 8. Probablement ma série de jeux préférée de tous les temps, ou pas loin. Là, je t'en ai parlé la dernière fois que je joue à ce jeu-là depuis 97. Là. Et oui. Ce jeu-là existe depuis 97. Là. Donc, c'est ça. Là. Donc, finalement, lundi, on a pu écouter ça parce que j'ai pas joué. J'ai pas gamé du pantoute cette semaine. Là, fait que c'est la seule chose gaming que je peux parler. Et c'est. Ben, je peux parler. Je peux pas t'en parler non plus. Peut-être aurons-nous un épisode un jour. Ah, c'est probablement une des meilleures finales de série que j'ai vues. Puis tu sais, ça m'a pris un bout de temps parce que la série, je l'ai trouvée excellente. Là. Puis en plus, pour un fan de Fallout, encore plus. Puis de ce que je dis sur Internet, même les gens qui sont pas fans adorent ça. Mais quand t'es en plus, t'es un fan, tu vois toutes les petites. Les petits fanservice, les petits trucs, les petits les petites choses qu'ils ont mis sur le set que les autres voient pas, que oh ok ça c'est genre ils font ça puis ok ouais ok ça je comprends cette patente là, ils parlent de quelque chose, ah oui ça j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà lu ça quelque part dans un autre Fallout.
Le lore est là.
Il est respecté à 100% là, et même plus. Puis la finale. Ça a vraiment été space. Quand la finale, tu sais, j'ai écouté ça, devait être rendu à 11h30 le soir là, quand ça s'est fini. Fait que ma journée dans le corps. Ça a comme pris un bout pour me rendre compte, j'ai c'est une des meilleures affaires que je viens d'écouter de ma vie. Là. C'est okay, pratiquement à côté, genre la matrice quand j'ai vu ça en 99, une affaire dans même. Où tu fais comme c'est quoi, tu sais, c'est qu'est-ce que je viens d'écouter là? C'est donc ben hot. Puis la finale répond à tellement de questions, en pose d'autres, mais répond à d'autres des questions que tu as depuis longtemps de c'est quoi qui se passe avec Voltec, c'est quoi, c'est quoi les machinations qu'il y a. J'irai pas plus loin que ça, mais tu sais, ça répond à un paquet de choses, fait comme waouh, ok. Là.
Ce qu'on va faire, tantôt tu posais la question, est-ce qu'on va faire un épisode full spoiler? La réponse c'est oui, ok. On va en enregistrer un dans pas si long que ça, puis on va le publier cet été. Donc les gens auront le temps de l'avoir vu. Puis on le dira, on va le marketer en temps, on va le dire là, clairement. Allez, écoute le pas si t'as pas vu la série et tout, va écouter la série avant puis tu l'écouteras. On pourra même parler de la franchise en général, tu sais, donc se faire un bon deux heures où on parle de Fallout, mais on va mettre au centre évidemment la série, puis ça nous donnera des congés pour cet été.
Mais
donc
si on enregistre ça dans pas longtemps. Si vous êtes capable d'écouter ça, même si vous n'êtes pas un fan de la série, vous avez jamais joué, ou encore plus si vous êtes un fan, c'est vraiment une des meilleures choses que j'ai écoutées de ma vie. Puis il arrête pas de parler d'adaptation, là. Puis j'ai repensé à tout ça. Puis j'ai écouté du monde parler de ça. Puis c'est pas juste, parce que ça, c'est pas juste une adaptation. C'est contrairement à Mario, le film, Mario, le film des années 80, 90, The Last of Us. C'est une nouvelle histoire.
Tout à fait.
Dans ce monde-là. Donc, c'est pas genre, j'ai joué à The Last of Us, je vais écouter la série, puis je vais comparer les deux tout le temps, ouais, parce qu'ils sont pas pareils, parce que c'est la même putain d'histoire qu'ils ont essayé de refaire, là, puis là, je suis pas content parce qu'ils ont pas fait ça telle affaire. Là, on parle pas juste d'une adaptation du monde, mais une nouvelle histoire qui est canon dans ce qu'on
c'est
connaît, qui est complètement complémentaire.
Des affaires qu'on n'avait pas vues dans la série, qu'on a vues, mais qui n'étaient pas expliquées. Et puis là, ils vont plus loin dans le développement de bien des affaires. C'est trippant, là.
Puis, t'as des personnages ultra importants là-dedans que tu te rends compte. Oh, lui, c'est le tu sais, j'irais pas plus loin que la goule qu'on a vue dans le trailer. Ouais. Tu fais comme, tu te rends compte que c'est telle affaire. Tu fais comme, oh, wow. Au point, ce que tu dis, il serait vraiment dans le champ de pas prendre la balle au bon puis de pas faire un Fallout 5 qui suit directement.
Ben oui.
Les personnages de, tu sais, sans être, mais sans les personnages que tu joues, mais des personnages que tu vas rencontrer dans ce monde-là puis oui. poursuivre l'histoire dans Fallout 5. Ça...
Parce que les millions de fans de la série qui vont essayer de se plonger dans Fallout 3 ou tout ça, ils vont être déboussolés, mon gars. C'est difficile d'approche là pour quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo à tous les jours, là.
Non, c'est vrai, tout à fait. Puis d'ailleurs, en passant, ça a fait un peu exploser les chiffres sur Steam, tu sais, au niveau des jeux de Fallout. Guillaume, t'avais des chiffres tantôt?
Oui, mais en fait, tu sais, je sais que le pourcentage de vente de la série, c'est pas très étonnant, il devait plus en vendre autant qu'il en vendait. Le jeu est quand même sorti en 2016, Fallout 4, 2018, oui. 2016, je me souviens plus.
2016, oui.
2016, mais bon, tu sais, c'est une augmentation des ventes de 7500%. Je peux comprendre. Mais en termes de joueurs concurrents, depuis quasiment 2017 déjà, je vois des pics à 30 000, 15 000, ça descend. On a pogné, en ce moment sur Steam, il y a 101 000 joueurs sur PC qui sont en train de jouer à Fallout 4. Okay. Donc, alors que genre le mois dernier, on était justement à 20 000, donc une augmentation de 5 fois. Et le pic... en fin de semaine, était à 167 000 joueurs concurrents.
Aïe, aïe, aïe. Donc, ça, c'est juste sur une plateforme, là, sur PC.
Juste sur PC. Donc, ceux qui se posent la question, c'est sûr, il faut que ça soit de qualité, mais tu sais, s'il y a une synergie à avoir entre le monde du jeu vidéo et de films et séries, je pense qu'ils peuvent, tu sais, quand c'est bien fait, ils peuvent avoir une très, très grosse synergie de dire, oh, oui, ça coûte l'argent à faire, mais ça vient... et monter le nombre de vues.
Est-ce que tu penses que c'est du monde qui ont déjà joué qui retourne par nostalgie?
Oui, mais non.
Ou qu'il y a beaucoup de nouveaux membres?
Pas tout.
Les deux.
Ben moi,
ouais.
Moi après, j'avais zéro. Il était pas dans le backlog. Là. Moi, j'ai joué 4-5 heures à New Vegas à l'époque sur la PlayStation 3 quand je m'étais racheté une PlayStation 3. J'ai joué 2 heures à Fallout 4, 2 heures à Fallout 76, mais là, je suis hypé depuis que j'ai écouté la série.
Ben oui.
Là, tu sais, j'étais justement à litige. Là, je retourne-tu dans Cyberpunk ou je me prends une petite game de Fallout 4 pour voir ou je fais les deux en même temps. Mais depuis que j'ai écouté la série, ça me tente énormément de retourner.
Dans Fallout, Stéphane, tu peux coucher avec plein de monde.
C'est vrai, en plus, tu dois le faire.
Bon, ben, les gars, faut que j'y aille, ça sonne dans la porte.
Mais t'es pas le seul, Stéphane, de penser comme ça, parce que Jeff, tantôt, t'avais des chiffres sur les autres Fallout, là, de Guillaume, de parler de Fallout 4, mais t'en avais d'autres.
Ouais, mais globalement, là, on approche de 200 000 joueurs concurrents si on prend tous les jeux confondus de Fallout.
Pis ça, c'est présentement. Là.
Ouais, on a une centaine de mille sur Fallout 4, on a une quarantaine de mille ou 40 ou 50 000 sur Fallout 76. On baisse à 30 000 sur New Vegas, 6-7 000 sur le 3. Tout le monde joue à Fallout.
Effectivement, que vous soyez gamer ou pas, il faut se taper la série Fallout sur Amazon. Les gars, on se quitte pour une courte pause. Après la courte pause, on continue à jaser jeux vidéo.
Du 26 au 28 avril, c'est le retour du Radioton de CKRL. Pendant cette fin de semaine festive, nous vous offrirons des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios. C'est aussi le bon moment pour renouveler votre adhésion, miser sur une sélection de 100 lots ou faire un don. Le Radioton vous sera présenté grâce à nos partenaires de premier plan suivants. La Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Fabrique culturelle et Télé-Québec, la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Le Radioton, soyez-y.
Le 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants qui sortent des sentiers battus, du 13 au 19 mai 2024. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez lefimav.qc.ca.
Ce printemps, les femmes sont à l'honneur au Palais Montcalm. La diva pop jazz canadienne Andrea Superstein célèbre la parentalité avec son concert Oh Mother.
Little one, you're so lovely. You'll find your way.
L'incomparable violoncelliste Joran présente Emmenette 7 Duo, un spectacle intimiste tout en force et en fragilité. La talentueuse Eliane Elias marie sa musique jazz à ses racines brésiliennes. Voyez-la en compagnie du respecté contrebassiste Mark Johnson.
Tell me what we have the day and night.
Chloé Sainte-Marie propose un voyage à travers les langues et la culture des Amériques avec le spectacle Maudit Silence. Détails au palaismontcalm.ca. Participez à l'événement radiophonique incontournable de l'année, le Radioton de CKRL. Pour cette occasion spéciale, la station se transformera en véritable cabaret. Du 26 au 28 avril, ne manquez pas ça.
Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée Nationale. Julie Vignola, députée fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec.
L'émission Arcade Québec est une présentation du nouveau campus informatique 42 Québec qui offre une formation pas comme les autres dans un environnement stimulant, connecté sur l'industrie. Es-tu né pour coder? Viens le découvrir en jouant sur la plateforme d'admission au 42québec.com. Qui sait où ça pourrait te mener?
Bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1. Vous écoutez toujours Arcade Québec, votre émission dédiée au merveilleux monde du jeu vidéo. Alors, on poursuit avec le sujet de la semaine. Cette semaine, Stéphane Gagnon du podcast Player, ainsi que Voro BD, BDiste très connu de Québec, du Québec parce qu'il habite à Rimouski, viennent nous jaser de Stellar Blade, un jeu qui sort vendredi le 26 avril prochain, exclusivement sur la PlayStation 5. Les gars, parlons Stellar Blade. Vincent, Stéphane, vous y avez joué, on l'a reçu de PlayStation. Ça fait combien de temps à peu près que vous l'avez reçu, grosso modo?
On l'a reçu le 11 avril.
Parfait, donc ça fait quoi, à peu près deux semaines et demie que vous l'avez. Vous avez le temps en masse d'y jouer, de vous rincer l'œil et la manette sur la protagoniste. Je veux que vous puissiez me parler du jeu. En un premier temps, okay, j'aimerais ça qu'on voit. Le premier sujet, c'est que le jeu fait couler beaucoup d'encre en lien justement avec la protagoniste qui est ultra sexy, là, du genre... on peut pas dire beaucoup trop sexy.
Ça dépend toujours, hein, parce ouais. que t'as des dizaines de costumes dans le jeu. Si tu veux pas qu'elle soit sexy, il y a des costumes un peu poche de patate. Il y a même un teddy bear, là. Tu peux y mettre un costume de mascotte que tu vois même pas à face.
Okay.
Puis, tu sais, si après ça, tu veux mettre des costumes sexy, c'est vraiment un cosplay, là. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Fait que c'est un peu à tout le monde de décider.
OK. Est-ce que ça t'a choqué, Stéphane, de ton côté, le côté un peu trop sexy de la chose?
Bon, écoute, tu sais, je sais qu'on partage quand même beaucoup d'auditeurs et les auditeurs de longue date savent mon amour pour les personnages féminins, autant dans les films, les séries que dans les jeux vidéo. Ils savent que je vais, si j'ai le choix, puis on fait la création d'un personnage, je vais aller vers un personnage féminin. Oui. Et je collectionne des statues de tous les personnages féminins, là. Ça fait que me poser la question, c'est y répondre. Évidemment, ça me choquait pas. C'était vraiment un des aspects du jeu qui m'attirait le plus. Puis, je m'en cache pas. Je suis très, très confortable avec ça. Mais il y avait aussi le côté combat, là. Mais le jeu, c'est plus que ça, là. Le jeu, c'est beaucoup plus que le côté sexy du personnage. Mais le côté sexy du personnage rend ça le fun pour les gars qui aiment voir un beau personnage. On peut pas se le cacher.
Okay, oui, puis c'est un beau personnage, hein. C'est pas juste un personnage vide. Au début, je parlais de Rise of the Ronin, il parle jamais. C'est un personnage un peu vide, il est là, il attend, tout le monde parle. Elle parle, elle a des bonnes lignes, c'est un soldat d'élite, on va dire. Puis elle est intéressante, elle est bien développée. C'est vraiment un beau personnage. Puis qu'elle soit belle, c'est super trippant, là. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un beau personnage de même à travers les jeux vidéo. C'est sûr que remonter à l'époque que c'était que ça, je pourrais comprendre que ça choque du monde, mais en mettant une fois de temps en temps, ça fait du bien en maudit, là.
Oui, tout à fait. Lâchons, mettons, l'aspect visuel, visuel de la protagoniste, évidemment. C'est quel type de jeu? C'est un jeu de combat, un genre de hack and slash, c'est ça? Ou...
plus que ça. Plus que ça, quand même. Okay. Le combat est fantastique. On en reparlera dans le fond puis dans le détail. Mais t'as des maps ouvertes. Et puis tu, c'est vraiment, ça ressemble à un bon vieux jeu japonais, là, que tu te promènes. Tu sais pas à quoi tu peux t'attendre. Il y a des passages que tu te créerais dans Uncharted. Il y a des passages que tu te créerais un peu dans RPG Final Fantasy. Moi, c'est ça que j'adore de la folie de ce style de jeu-là. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Le jeu se développe tranquillement, pas vite. Il s'ouvre comme une belle fleur. À chaque heure, tu as des passages puis des mécaniques de gameplay que t'avais pas avant. C'est vraiment trippant puis gratifiant de jouer à ce jeu-là. Steph pourra vous le dire, là, je pense que ça va être dans son top jeu de l'année. Mais moi, de mon côté, j'ai pas eu de bonheur de même sur un jeu depuis presque un an. Depuis, Colin, j'ai joué à peu près tous les gros AAA qui sont sortis cette année, puis il n'y en a pas qui m'ont allumé comme ce jeu-là. Là.
Mm. Stéphane, tu as eu une belle expérience comme ça aussi de ton côté ou?
Ouais, ben écoute, ça fait partie des styles de jeu que j'apprécie énormément. Tu le sais, vous m'invitez régulièrement à aller jouer à.
Helldivers.
Helldivers, merci beaucoup de m'aider. Mais moi, je suis plus un gars du style solo aventure. Puis Stellar Blade, c'est un action aventure game en vue à la troisième personne. Donc, tu as une histoire. Tu rentres dans un début d'histoire, tu vas vivre l'histoire. Mais, tu sais, moi, je suis un gars de soul-like, je suis un gars de jeu de combat. Je les fais toutes dès qu'il y en a un qui sort. Donc, c'est pour ça que le jeu m'intéressait. Le jeu réussit très bien au niveau du combat. C'est une des grosses forces du jeu, c'est le combat. Le jeu, on va le dire, il est développé par Shift Up, un studio coréen, et ils se sont associés avec Sony pour avoir. Sony s'est payé une exclusivité là-dessus. Le studio, c'est un studio qui a. C'est le premier jeu console. C'est un studio qui a fait quelques jeux mobiles, donc c'est pas un gros triple A. Je dirais que c'est un double A.
Oui.
C'est un petit peu dans le style, sans que le style de combat soit pas vraiment pareil, mais. Mettons, on a eu Lies of P au mois d'août cette année, l'année passée. C'est un peu, mettons, de la même catégorie de jeu. On va parler d'un jeu de 25-30 heures à accomplir, dépendamment du temps qu'on va mettre pour accomplir plus ou moins les quêtes secondaires. Là. Et le studio a très, très, très bien fait comme premier jeu. Tu sais, je veux dire, c'est pas le jeu qui va t'en mettre plein les yeux au niveau des graphismes, dans les détails, des endroits. On parlait de Cyberpunk en début de show.
Oui.
Par contre, ils ont fait un très, très bon level design au niveau des maps. Quand c'est le temps de faire du platforming, c'est pas toujours ça coche, mais t'acceptes les petits légers défauts. Quand tu te dis, écoute, c'est le premier jeu console, ils ont réalisé un très bon travail. C'est là qu'on voit aussi que les moteurs qu'ils commencent à avoir dans les mains sont capables de produire quand même de quoi de très, 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 très bien. Ça aide les développeurs certainement. Mais après ça, il y a les gens derrière, les développeurs. Est-ce qu'ils vont être capables de te construire un level design intéressant et une exploration intéressante? Stellar Blade réussit là où il doit réussir. Gameplay, exploration, ambiance. La musique est incroyable dans le jeu. Par contre, moi, je l'ai baissé un peu parce qu'à un moment donné, je suis un gars que, à un moment donné, entendre la même toune, au bout de 40 heures, tu veux te flinguer, là.
Ça ressemble à la musique de Nioh aussi, là, un peu de la musique ambiance, là.
C'est le même créateur de musique qui avait fait la musique dans Nier Automata, si je ne me trompe pas.
Ah, ben on s'y retrouve.
Et c'est ça. Et de toute manière, le jeu a une grosse influence de Nier Automata. Je vais sortir son nom là, mais le creative, je l'avais sorti mettons le directeur créatif du studio est allé en entrevue chez IGN, mais il était accompagné du créateur de Nier Automata et il disait que Nier Automata était sa grosse influence. Et tu sais, les deux gars se lançaient des fleurs parce que le créateur de Nier Automata t'a dit, écoute, le jeu il est merveilleux, vous avez fait de quoi de mieux encore que ce que moi j'ai fait. C'est que les deux sont censés. On a vraiment une grosse influence, puis ils vont aller chercher de l'influence de plein de jeux un petit peu partout. Là, ils sont allés chercher qu'est-ce que des jeux comme, mettons, Sekiro faisait de bien, des jeux comme d'autres choses faisaient de bien, puis tu sais, ils ont été capables de faire un bon petit melting pot de ça pour te donner un sentiment Vraiment satisfaisant quand tu réussis une parade parfaite. Le bruit que ça fait, les effets spéciaux que ça fait, l'esquive parfaite. Tu vas avoir
juste, Steph, avant d'aller dans un combat, là, pour revenir sur Nier, moi, je les ai toutes faites, ces jeux-là, hein, depuis le premier qui était sorti juste sur Xbox 360, je pense, ou l'autre d'avant. Puis, on retrouvait dans ces jeux-là qui étaient des jeux même pas double A, c'était vraiment pas très beau, mais on retrouvait une folie qu'on retrouve souvent dans les jeux japonais, surtout les vieux jeux japonais, où tu pouvais changer de gameplay totalement, ouais. Tomber dans un point and click, tomber dans un shooter en plein milieu de ta game de RPG. Dans Stellar Blade, il y a un petit peu ce côté-là que je retrouve puis qui me fait triper, dans le sens que on est dans un jeu un peu style oui Souls-like, mais à un moment donné, tu rentres dans un monde, puis t'as plus ton épée, tu peux plus te battre. Puis là, ils te donnent un gun, puis il faut que tu apprennes à utiliser cet outil-là parce qu'ils veulent que tu l'utilises, justement. Là, tu te retrouves un peu dans un genre de shooter pendant tout un tableau. Puis moi, cette folie-là, là, ça me fait triper. Dans les jeux américains, t'auras jamais ça. Il va toujours avoir un directeur qui va dire « Non, on peut pas casser le gameplay comme ça, c'est trop fou, les joueurs vont débarquer. » Les Japonais ont cette folie-là d'aller dans n'importe quel sens puis de tirer un peu partout sans trop se poser de questions. Puis de se dire, les joueurs, ils embarqueront, ils n'ont pas le choix. Ça, j'aimais ça, de retrouver ça là-dedans.
Mais c'est
ça,
déroutant.
Chez les jeunes studios, on le voit souvent.
Mais c'est déroutant, par contre. T'sais, je me rappelle de Nier Automata, moi, dans lequel tu passes vraiment, bon, t'es plus hack and slash, là, tu reviens, t'es en 2D, là, ça, ouais. Là, après ça, hop, c'est un jeu de vaisseau,
vu par en haut. Avec, ouais. Mais c'est une expérience, parce que, tu sais, le maudit shooter que tu commences à jouer, puis que tu connais tous les boutons par cœur dès la première seconde, t'as l'impression de jouer au même mode de jeu que t'as joué 10, 30, 40 fois dans ta vie de gamer. Moi, j'ai plus de fun à jouer à ça. Je les achète même plus à Star. Tu sais, fait que j'aime ça être surpris. Puis, on retrouve un peu cette folie-là dans ce jeu-là. Steph, je sais qu'on avait parlé la dernière fois des quêtes, parce qu'il y a des mondes ouverts, il y a beaucoup de sous-quêtes puis de quêtes secondaires. Quand tu développes ces quêtes-là, les personnages secondaires se développent beaucoup dans les dialogues puis les cinématiques. Je sais que Steph, t'es en train de jouer à Cyberpunk, qui est effectivement un masterpiece, puis un des plus beaux jeux au monde pour les quêtes secondaires. On va pas à ce niveau-là. Mais moi qui viens de jouer à Final Fantasy VII, le 2, là, et Chris, les quêtes secondaires sont 10 fois mieux dans Stellar Blade, là. C'est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus de développement, de personnages. Il y a même des personnages que t'apprends à aimer à travers les quêtes secondaires. Ce que t'as pas cette richesse-là. Puis les maps ouvertes, contrairement à Final 7, que tu t'écœures après 5 minutes de te promener là-dedans. Dans Stellar Blade, tu veux trouver tous les petits recoins de la map, un peu comme dans un Soul, que t'aimes ça explorer, puis dévorer la map, puis trouver tous les petits trésors cachés un peu partout. Tu retrouves ça dans ce jeu-là aussi.
Good. Fait que, je pensais pas, par contre, que c'était un jeu à monde ouvert. Tu vois, j'aurais pensé que c'était une histoire vraiment dirigée.
C'est un mix.
Là.
C'est pas un gros monde ouvert. Tu vas avoir des maps que ça va être vraiment très couloir.
Ouais.
Puis tu vas arriver, je pense que peut-être là, tu sais, moi je pense qu'il me reste une zone plus ou moins à explorer, mais t'as deux zones qui sont un peu plus ouvertes, tu sais, qui vont te permettre d'aller à gauche, à droite là, que tu sais, mais je veux dire, c'est les maps, même en étant assez grandes, quand t'as commencé à faire le tour, tu vois que c'est pas si grand que ça. Mais ça permet de l'exploration, puis ça permet, tu sais, c'est assez grand pour que il y a beaucoup de monde qui vont passer à côté de bien des affaires, puis ils vont rater de trouver des choses, mais t'as un scanner qui va te scanner, qui fait excessivement bien la job. Tu scannes, tu tournes ta caméra, tu vois qu'en surbrillance, tu vas avoir quelque chose là.
Okay.
Comment que je fais pour me rendre là? Si tu l'atteins pas tout de suite, tu sais que tu vas probablement pouvoir débloquer un double saut un jour ou un dash un jour, comme dans tous les bons jeux.
Persia, le dernier, il y a ce petit côté-là, justement, là, que tu dois débloquer des choses, puis que tu dois revenir dans les maps des fois. Ça fait que c'est un jeu qui a quand même pas mal de profondeur.
Ouais, exactement. Puis, au niveau du combat, comme on parlait tantôt, le jeu donne une bonne accessibilité autant aux néophytes que, je dirais, aux plus aguerris. Tu sais, pour l'instant, moi, j'ai eu zéro difficulté jusqu'à date. Là. La plupart des boss, je les ai toutes faites en un coup. À part un certain boss dans la... Tu sais, à un moment donné, tu décolles, tu fais la... Tu sais, il y a une démo qui est sortie depuis un bout. Là, vous pouvez faire la démo, puis vous allez pouvoir Si vous achetez le jeu, vous allez pouvoir transférer votre save de votre démo. Mais après, tu arrives dans la zone qui est un genre de simili-désert. Tu as un boss dans une zone qui est là, puis j'y étais peut-être un petit peu trop de bonheur parce que j'avais pas assez de vie.
Le boss, t'as
pas si dur que ça, mais sauf que si t'as presque pas de vie, puis à chaque coup qu'il te donne, il te la bouffe quasiment complète ta vie, ben c'est assez difficile. Fait que je suis parti, je suis allé grinder un peu des ressources, puis j'ai réussi à monter ma vie. Puis quand je suis retourné, je l'ai battu en premier first try. Mais jusqu'à date, tu sais, ça m'arrive de mourir parce que je fais pas attention, submergé par un ou deux ennemis, j'ai oublié de me healer. Mais jusqu'à date, en mode normal, j'ai pas mal fait toutes les boss en un coup. Oui, je suis un gars qui est habitué aux soul-like, donc je connais un petit peu les principes. Mais je pense que les habitués des soul-like vont trouver ce jeu-là quand même facile, en mode normal. Et pour les autres, il y a un mode histoire. Fait que, tu sais, je vois pas l'intérêt vraiment de le faire en mode histoire, mais si les développeurs l'ont mis, puis vous le permettent, puis vous décidez de le faire, faites-le, parce que ce genre de jeu-là, autant que Vincent apprécie beaucoup l'histoire et les quêtes secondaires, moi, je trouve que l'histoire est correcte, mais je trouve pas que ça va casser la patte un canard. Tu sais, je veux dire...
c'est au niveau des quêtes secondaires... Soul, hein? C'est tout caché dans les textes, les petits trucs que tu trouves à gauche puis à droite... Puis, tu sais, comme je dirais pas les twists du jeu, mais j'en avais dit une à Steph, elle se développe dans le jeu, puis on arrive
à un moment. J'étais obligé de la couper, puis faire du montage, mettre mettons des bips dans mon podcast parce que je me suis spoilé, là.
Parce que comme, non, mais je le savais même pas, je spoilais quelque chose que j'avais pas vu. Ça, je l'ai déjà dit, comme scénariste, je vois arriver ben des affaires, puis je l'avais vu arriver, tout ça, mais l'histoire est toute cachée, comme un saut. Si tu veux, t'avances, tu te bats, t'as du fun, t'explores, mais si tu veux prendre le temps de lire, il n'y a
si pas plonger,
à faire là, non plus à lire, là,
exactement.
Comparativement à ben des RPG, des fois que ça devient un peu lourd. Puis la lecture développe souvent des affaires cachées aussi. En tout cas, c'est bien le fun. J'ai bien aimé ce côté-là. C'est loin d'être lourd, là. Puis l'histoire en tant que telle, c'est vrai qu'elle n'est pas très complexe, mais il y a beaucoup de rebondissements puis de trucs cachés. C'est très, très mystérieux comme histoire. Au début, tu sais pas dans quel genre de monde t'es. Tu sais même pas toi, tu te bats pour qui. C'était pour les bons, les méchants. Puis tout ça se dévoile tranquillement, mais tout le jeu est fait comme ça. Il y a un arbre de compétences dans ce jeu-là aussi qui a de l'air immense au début, puis qui se développe très, très vite. C'est gratifiant là, de l'ouvrir puis de le développer, parce que tu débloques quasiment à toutes les 5 minutes une affaire. T'as du fun à gamer puis à l'essayer, ces trucs-là. Et contrairement à Bayonetta, que tu dois apprendre des genres de combos infinis, là, X par en arrière, par en avant, avance, gauche, droite, là, c'est très simple, le système de combat. Il va juste te rajouter... Pèse 2 fois sur attaque, pèse 3 fois sur attaque, tiens attaque longtemps. Ça fait que pour des vieux gamers là, qui sont pas capables de faire en 2 secondes 40 boutons, là, ça joue super bien. Puis une petite twist que moi qui adore les soul-like et qui les a pas mal toutes faites, j'ai vu de nouveau dans ce jeu-là, dans le système de combat, c'est le système de couleurs pendant les combats. Ça peut-être que toi, Steph, t'es daltonien, hein?
Orange puis le jaune, bon. Que je vois mal.
Je pense qu'il y a des rôles aussi au daltonisme dans le jeu, mais tout ça pour dire que quand tu te bats, les bonhommes, au début, quand ils viennent roses, par exemple, il faut que tu évites. Après ça, quand ils deviennent bleus, il faut que tu bloques. Fait que ça l'aide énormément. Puis le combat est hyper réactif. Si tu pèses sur bloquer pendant que tu frappes, il va bloquer. Puis il va bloquer au bon moment. Là.
Fait que c'est vraiment le combat, c'est vraiment un des éléments les plus marquants du jeu, j'imagine.
Ouais, comme je disais tantôt, c'est la force, puis c'était la base du jeu, c'est vraiment l'idée du jeu, c'est vraiment un jeu de combat. Et comme Vincent le disait très bien, l'apprentissage se fait super facile. C'est vraiment, tu sais, mettons là, c'est pas un Street Fighter, comme tu disais, en haut, en bas, gauche, droite, mettre du lubrifiant pour. Mais tu sais, c'est mettons L1 avec flé avec triangle, puis tu peux faire une combinaison triangle carré là, mais c'est quand même super basic mais bien apporté. Après ça, tu vas développer le côté R1 avec les mêmes pitons, mais ça va être d'autres attaques. À un moment donné, tu vas développer le super power en cliquant sur les deux bras L3 puis R3, puis là tu vas devenir un peu plus fort pendant un certain période de temps. Ça fait que c'est très facile. Moi, ce que je lève mon chapeau au studio, c'est que le studio, tu sais, je disais tantôt le scénario qu'on se perd pas un canard, mais le scénario est quand même très bon. L'histoire de base, c'est bon. On pourrait en faire un film, puis ce serait vraiment génial. Mais tout le long du jeu, ils ont été capables de me faire rire. Il a envoyé des petites vannes de temps en temps. Il adresse des choses du jeu, comme à un moment donné, tu sais, dans les jeux vidéo, les développeurs sont bons pour faire de la récupération. Dans Harry Potter, on voyait souvent la même grotte. Oui. Dans celui-là, à un moment donné, tu es dans un couloir, puis tu arrives dans des places que c'est la même pièce. Puis on l'a vu 100 fois dans des jeux vidéo, cette affaire-là. Il y a une des filles, la fille, parce que tu es accompagné d'un drone, ton drone devient aussi ton gun de temps en temps, mais le drone sert à tes deux compagnons pour te parler. Puis là, à un moment donné, il y a une jeune demoiselle qui nous accompagne dans l'aventure, puis Eve, elle dit, je suis tout mêlé, tout est pareil ici, tout est tout le temps pareil ici, je suis comme perdu. Ça fait que, tu sais, il adresse le fait qu'ils reprennent les mêmes coins, puis elle dit, il me semble que j'ai déjà passé par ici. Puis à un moment donné, je suis rentré dans une salle où j'ai fait un combat avec plein de monstres au gun, parce que là, tu peux pas prendre ton épée. Puis il y a une caisse dans le milieu qui apparaît, je prends la caisse, puis je pogne un costume. Puis la jeune fille dans le drone, elle me dit, me semble qu'on prend des risques énormes pour pas grand chose. En voulant dire, tu sais. Là, tu sais, avec un costume, là, t'as failli mourir, puis pour pas grand chose.
Bikini.
Costume. Ouais, non, ça, c'est pas le bikini qui est là, mais au niveau des costumes, on va se le dire, là, les développeurs se sont pas gênés pour en faire des très, 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 très sexy. Puis moi, puis Vincent, on s'envoyait des screenshots de qu'est-ce qu'on pognait. Puis, mettons que si tu fais le tour avec ta caméra, t'as certains costumes que tu vas avoir une vue très, très subjective. Ça cache pas grand-chose.
Ouais, c'est ça.
T'sais, on verra pas de partie génitale en tant que telle, sauf que le bikini, il est court. Il cache pas mal juste ça, là. Tu vas avoir, mettons, un costume, la fille, elle a une jupe de jeans quand même très courte, des bas collants, là, d'étudiante blanc, là. Sauf que quand t'as nage, ben ta caméra est derrière elle. Fait que où est-ce que t'es supposé voir, ben il te cache rien, là. Il te le montre, puis tu vois les fesses, tu vois qu'elle a un string, mais il s'en tape. Ou sur certains costumes, quand t'as monté une échelle, ben ta caméra, tu peux la faire tourner. Fait que je vous dis pas que je l'ai faite.
Non. Ben non. Mais quelqu'un pourrait
surtout,
le faire.
C'est pas obligé. Mais je peux vous jurer que les développeurs ont sorti aussi. Là, je te demande, ah non, ils ont pas fait ça. Ils ont sorti la pêche. Là, je dis,
oui,
t'as dit la pêche, ça m'emmerde de pêcher.
Jeu, c'est moins gossant que dans Final Fantasy ou qu'ils nous mettent ça au début du jeu ou dans Zelda. Ouais. C'est vraiment juste vers la fin du jeu, puis c'est
pêche.
Une petite affaire.
Mais,
rien.
Mais contrairement à ces jeux-là, ce qui est le fun, c'est de pouvoir pêcher en bikini ou en costume de Playmate. Ou avec un costume de plongée hyper moulant qui laisse révéler tes cuisses. Mais on va le dire.
Oui, Steph, moi je viens d'acheter une chaloupe avec un moteur à gaz. Je peux tout te faire vivre cette expérience-là si tu veux cet été, si tu viens me rejoindre sur ma terre, il n'y a pas de problème.
OK, ben écoute, si tu rases tes belles grandes jambes, on pourra en reparler, là. Mais après ça, ben tu vas avoir aussi peut-être pas aussi élevé que dans certains jeux, mais tu vas pouvoir changer de coiffure aussi. Tu vas débloquer un coiffeur. Où est-ce que tu vas pouvoir aller acheter des nouvelles coiffures avec des nouvelles couleurs de cheveux? Il n'y a rien de très, très... Tu sais, je vous dirais que la coiffure qu'elle a, c'est déjà la plus belle coiffure au départ. L'accessibilité au jeu, ce qui est le fun, dans le jeu, dans les paramètres, tu peux déjà aller changer, mettre auto-loot pour ramasser le stock au lieu d'avoir à cliquer pour le ramasser. Tu peux raccourcir la queue de cheval de ta protagoniste. Tu peux quand même adapter beaucoup d'affaires au niveau du jeu. Moi, là, ça a été un gros coup de cœur. Je suis rendu à 40 heures, puis deux ou trois fois cette semaine, puis la semaine passée, que j'ai quitté le travail plutôt pour venir jouer. Puis je prenais comme défaite, ben j'avais des critiques à faire. Il fallait que je sois prêt et à jouer,
oui,
mais.
Évidemment.
Exactement. Je suis rendu à 40 heures, je suis pas tanné.
C'est le style de jeu que t'as goût, puis t'as hâte d'aller rejouer. Puis ça, sans blague, là, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est ça que je disais au début. C'est le genre de jeu qui me fait triper, puis que si j'ai 2 heures en fin de soirée, j'ai hâte d'arriver à ces 2 heures-là pour retourner jouer. Fait que ça, c'est bon signe pour un vieux gamer, là.
Ouais. Tout à fait. OK, donnez-moi, pour finir, la force pour vous, là, personnellement, la force du jeu, puis peut-être sa faiblesse, sa plus grande force, sa plus grande faiblesse. Stéphane?
La plus grande force, les combats.
OK.
Évidemment. Puis la faiblesse, je dirais, Je dirais peut-être, mettons, les quêtes secondaires.
Ouais, t'as moins aimé ça. C'est moins engagé ouais, un peu.
Ben, mais en même temps, là, je lève mon chapeau. C'est qu'un coup, t'as accompli une quête secondaire, il t'offre, si tu veux, te téléporter au donneur de la quête. C'est que si à un moment donné, tu disais, hey, c'est qui me l'a donné, là? Tu peux te téléporter, il te ramène à l'endroit de la quête, tu droppes ta quête. Mais souvent, c'est des quêtes, c'est va chercher ça. Fait, tu vas à une place, tu rentres là, tu ramasses une bouteille de vin, puis tu vas la reporter. That's it, là. C'est pas plus que ça, là. Fait que. Okay.
Mais ça force à explorer quand même un peu, c'est ça, j'imagine. Ça force à explorer, ça force à se promener un petit peu.
Ben, c'est carrément fait pour ça.
OK,
carrément. Mais ça force à explorer des fois. Mais tu sais, ils l'ont fait pour du monde qui n'explore pas tout.
OK, okay.
Tandis qu'un gars comme moi qui passe la gratte partout puis qui repasse à la même place, ben là.
Ouais, bien tu l'as déjà vu, ouais, c'est ça, c'est peut-être moins pour toi. Là. Vincent, de ton côté, force et faiblesse.
Ben, moi, la plus grande force de ce jeu-là, je l'ai dit, c'est que c'est un jeu qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre jusqu'à la fin. À chaque fois, à chaque heure que tu joues, il y a des nouveaux trucs à faire, des nouvelles choses à essayer, ton arbre de compétences qui se développe, un nouveau pouvoir. Et ils font fort en plus de la même arme et la même armure pendant tout le jeu. Même si tu changes de look, ça changera absolument rien à tes points d'armure. Fait que tu n'as même pas à te faire chier à changer d'armure puis à booster tes affaires. Il y a plein d'autres choses qui se développent dans le jeu, puis le jeu se développe du début à la fin. Je dirais même que ça vaut la peine de jouer au minimum 4 heures, parce qu'au début, c'est tellement un jeu comme on en a vu d'autres pendant les premières heures, qu'il faut que tu laisses le temps au compte d'ouvrir, là. Alors, au moins 4 heures, je vous dirais. Ça, c'est ce que j'ai le plus aimé. Ce que j'ai le moins aimé, c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs jeux où t'as tu dois scanner l'environnement. Quand t'es un gars, un peu comme moi, je suis comme Stéphane, j'aime ça fouiller partout, puis un peu tout trouver, t'es tout le temps en train de scanner à toutes les 2 secondes parce que tu veux voir s'il y a un trésor de cachet là, s'il y a une échelle là, s'il y a ci. Puis ça me gosse. J'aimerais ça que ça soit un peu plus simple, que quand tu scannes, peut-être que ça dure 10 secondes à la place de 2 secondes, ouais. Parce que ça devient très répétitif. Tu sais, le vieux Splinter Cell que tu scannais tout le temps, puis tu finissais par jouer tout en Google Night parce que tu voulais rien rater, là. Tu retrouves un peu ça dans ce jeu-là. C'est le seul défaut, moi, que je trouve.
Mais c'est pas un gros défaut. C'est pas des gros défauts que vous avez dit là pour vrai. Là, c'est vraiment quand même OK. Donc, merci à PlayStation de nous l'avoir fait parvenir. Franchement, là, c'est vraiment bien. Merci les gars d'être prêtés au jeu et d'être passés surtout pour nous en jaser. Là, c'est vraiment bien. Donc, un jeu à recommander si vous aimez le style, évidemment. Ça va de soi.
Ouais, le jeu va cartonner, c'est sûr. Là. Il fait parler énormément de lui. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont hâte de mettre la main dessus. Jusqu'à date, les premières previews que j'ai vues puis les premières critiques sont bonnes. Ressemble à nos critiques. Là. Donc,
CKRL. Dans le cadre du Radioton 2024 de CKRL, la tradition se poursuit. Une édition toute spéciale de Rue d'Auteuil en entretien et en prestation. Cette année, votre référence en blues à Québec vous propose le spectacle intime d'une véritable légende, le pianiste Guy Cardinal. Ici Jacques Dulac. Joignez-vous à moi le vendredi 26 avril dès 20h30 sur les ondes de CKRL pour profiter de cette soirée exceptionnelle. Et rendez-vous sur lepointdevente.com pour vous procurer des billets VIP afin d'assister au concert de Guy Cardinal. Et ainsi, contribuer au financement de votre radio favorite.
Dans le cadre du 40e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL 89.1 est fier de collaborer à la présentation du concert Community Ensemble with Harry Brown de l'ensemble Natural Information Society, mené par Joshua Abrams, le vendredi 17 mai 2024 à 22h. Pour des billets et tous les détails sur le 40e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
L'Anglicane présente un concert exceptionnel. Le 27 avril, laissez-vous transporter par l'alchimie musicale de Chang Puissance 2 Duo. Réservez vos places dès maintenant à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca.
Nous sommes en 1917. Première guerre mondiale, révolution russe. Moscou est le noyau de grands bouleversements sociaux. À huis clos, Nina, Treplev et Trigorine, un triangle amoureux figé dans le temps, espèrent un avenir meilleur. Dans une mise en scène mêlant le concert, le théâtre et l'art vidéo à grand déploiement, retrouvez les protagonistes de La Mouette de Tchekhov 15 ans plus tard. Nina ou de la fragilité des mouettes empaillées, au théâtre Périscope du 9 au 27 avril, une production de La Tralée et de Carte Blanche. Billets en vente maintenant.
Le Palais Montcalm vous offre le meilleur de la musique avec le jazz vocal d'Andrea Superstein.
Little one, you're so lovely. You'll find your way.
L'artiste canadienne qui brille par sa voix riche et ses mélodies accrocheuses célèbre la parentalité avec son nouveau spectacle Oh Mother. Le 4 mai, au Palais Montcalm, laissez-vous bercer par les chansons à la fois originales et accessibles d'Andrea Superstein.
Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com.